France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Russie, en Pologne, en Chine et en Allemagne.
Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile.
I'm also pleased that President Macron agrees that the cost and burden of securing the peace must be borne by the
Trump et Macron, donc hier, on l'a suivi ensemble, qui ont dialogué, mais peut-être tout autant accentué le fossé qui nous sépare désormais, Européens et Américains. Ce soir, on va faire un mini tour du monde pour tenter de comprendre comment chaque partie du monde, justement, ou certaines en tout cas parties du monde, se positionne devant le nouvel ordre qui est imposé par Trump. Quatre pays, quatre problématiques. Et je salue Sylvain Tronchet qui est à Moscou, Adrien Sarlat qui est à Varsovie, Nathalie Versieux qui est à Berlin et Sébastien Barriot qui est à Shanghai. Bonsoir les amis, bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Fabienne.
Sylvain, je voudrais qu'on commence... Bonsoir. Sylvain, bonsoir. Je voudrais qu'on commence avec vous, parce que la Russie est le pivot de toutes les discussions. La Russie qui a dû d'abord se pincer pour y croire, hein, quand Trump lui a pavé le chemin, mais la Russie qui a vu aussi les Européens tenter de revenir dans le jeu, avec la visite donc d'Emmanuel Macron hier. Il y aura Keir Starmer, on le sait, après-demain. Expliquez-nous un petit peu, Sylvain, pourquoi Vladimir Poutine a éprouvé le besoin de s'inviter à la télévision russe hier soir. Il était 23h.
Ouais, 23h heure de Moscou, il est venu faire du Poutine en fait, hein. Donc en clair, déjà techniquement, il convoque une partie de son gouvernement, il tient une réunion en ligne dont on diffuse un bout à la télévision. Ça c'est du grand classique du poutinisme, on doit voir le chef au travail, en action. Et puis si ça ne suffit pas pour expliquer ce qu'il veut dire, le message qu'il a à passer, en plus il convoque son journaliste intervieweur particulier, un homme qui s'appelle Pavel Zaroubine, et qui réplique donc au Kremlin hier soir. Alors pourquoi citer bon, c'est plutôt le propre des autocrates, hein, de convoquer tout le monde à des horaires impossibles et de les faire vivre à son rythme, mais aussi, surtout, parce qu'à ce moment-là, en fait, il est 15h à Washington. Et à ce moment précis, Emmanuel Macron et Donald Trump parlent, et Vladimir Poutine, probablement, sent bien que les choses sont un petit peu en train de lui échapper. Depuis 15 jours, c'est lui, hein, qui mène le grand bal diplomatique, qui a installé un dialogue exclusif avec les États-Unis. Et puis là, bon, même si Emmanuel Macron ne va pas obtenir tout ce qu'il veut, c'est clair que Donald Trump ment, bluffe. Les Européens sont quand même un peu en train de revenir dans le jeu. Et puis en plus, Trump dit qu'il va bientôt recevoir Volodymyr Zelensky à Washington, qu'il va signer avec lui cet accord sur les métaux rares. Et ça aussi, ça remet l'Ukraine dans le jeu, même si c'est au prix d'un contrat léonin. Donc Vladimir Poutine, qui est sur une ligne de crête, hein, depuis des jours, sent que le moment ne lui est pas forcément favorable. Alors il vient donc à la télévision pour dire déjà que la Russie, elle aussi, a plein de métaux rares et qu'elle peut dealer, elle aussi, avec les États-Unis. Il parle de l'aluminium aussi, notamment. Mmh. Et puis, il vient dire tout le mal qu'il pense de Volodymyr Zelensky pour essayer de le disqualifier. Il met les Européens dans le même sac, hein. L'UE ne compte pas pour lui, hein. Seul compte sa relation avec les États-Unis. Et donc, il parle aux Américains à leur horaire pour leur dire que c'est avec lui qu'il faut parler, en fait, et que c'est lui qui a les cartes maîtresses en main.
Alors, je vous écoute, Sylvain, et c'est vrai qu'on lit un peu mieux la stratégie qui est très maximaliste des Russes en ce moment, mais j'ai aussi en tête la dernière phrase du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui dit clairement, la Russie cessera les hostilités quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. C'est extrêmement clair. Qu'est-ce qu'elle veut, la Russie, du coup ?
Bah, elle veut tout, hein. Et elle y a été encouragée, en quelque sorte, par Donald Trump, qui lui en a déjà donné beaucoup, finalement, quasiment sans qu'elle ait à le demander, hein, en disant, avant même le début des négociations, que l'Ukraine allait devoir renoncer à une partie de son territoire, en disant qu'il ne lui semblait pas bon que l'Ukraine intègre l'OTAN, mais du coup, la Russie veut plus. C'est la stratégie classique de la diplomatie depuis l'époque soviétique, hein. Donc maintenant, elle veut que l'OTAN renie officiellement sa promesse d'intégration à l'Ukraine, qui avait été formulée en 2008. Elle veut que l'Ukraine soit un pays neutre, donc vu de Moscou, ça veut dire pro-russe, hein. Elle veut un changement de régime à Kiev, ça veut dire donc avoir dans la capitale ukrainienne quelqu'un de plus accommodant avec la Russie, comme ça a été le cas à certaines époques. Et puis, pour l'instant, elle ne veut rien lâcher, hein. Hier, par exemple, Donald Trump affirmait que Vladimir Poutine lui avait dit qu'il était d'accord pour l'envoi de troupes européennes en Ukraine, pour garantir un accord de paix. Ça paraissait surprenant, hein, honnêtement, hein. Et ce matin, le Kremlin a rappelé que ce point est inacceptable pour Moscou. En fait, La stratégie de Moscou, c'est, puisque Donald Trump veut un accord à tout prix, il l'a dit, il l'a posé, il y a mis quasiment son honneur personnel hein, dans cette histoire, eh bien, montrons que nous sommes prêts à aller dans le mur, jusqu'à l'échec des discussions. Ça va le forcer à nous en donner un peu plus, en tordant le bras de l'Ukraine, forcément, puisque c'est le seul sur lequel il a un véritable bras de levier. Et pour l'instant, c'est ce à quoi on assiste. Mais Moscou dit bien que dans les discussions qu'ils ont eues avec les USA jusque-là, il n'a absolument pas été question de la guerre en Ukraine.
Mais alors à quoi joue Moscou finalement, Sylvain ? Qu'est-ce que le Kremlin cherche ? À quoi ça lui sert finalement de discuter avec les États-Unis ?
Alors, il y a de l'intérêt court terme, hein, probablement. Il cherche par exemple la levée des sanctions économiques, hein, en comptant sur l'appétit de Donald Trump pour les bons deals, hein, comme il le dit. On parle beaucoup du retour des entreprises occidentales en ce moment à Moscou. Mais ce que Vladimir Poutine cherche surtout, c'est redéfinir l'ordre mondial et donc à retrouver son empire, en quelque sorte, son précaré, ce qu'il appelle, lui, l'architecture de sécurité en Europe. Par exemple, il a sauté sur une proposition de Donald Trump de réduction de 50% des dépenses militaires. Vladimir Poutine, il trouve ça très bien. Pourquoi ? Parce que déjà, lui, il part de tellement haut en ce moment que finalement, il peut bien baisser un peu ses dépenses. Et puis, il sait que si les Américains coupent dans leurs dépenses militaires, ce sera forcément au détriment, au moins en partie de leur présence en Europe. Et il faut pas perdre de vue que, bien au-delà du dossier ukrainien, ce que veulent les Russes, pour les Russes, toute présence de l'OTAN, de troupes, d'armes américaines en Europe centrale et orientale est insupportable pour eux. Et Vladimir Poutine, finalement, il voit dans Trump l'occasion de modifier le rapport de force issu de l'effondrement de l'URSS. Avec les Américains, en plus, il parle de nouveau de contrôle des arsenaux nucléaires, comme au temps de la guerre froide, en fait, hein, quand les deux blocs discutaient ensemble les yeux dans les yeux et que le reste du monde n'existait pas.
Sylvain, merci beaucoup. Je voudrais qu'on y aille. Vous allez rester avec nous. Je voudrais qu'on y aille en Europe avant de voir justement, notamment ce qu'on dit un peu plus loin et ce qu'on dit en Chine. L'Europe, d'abord la Pologne. Et pourquoi la Pologne, Adrien Saria ? Parce qu'on a un peu l'impression que elle se sent comme la seule puissance européenne à comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine en ce moment et la nécessité surtout de s'engager aux côtés de Kiev.
Et oui, c'est ça, Fabienne, puisque c'est que, en fait, les Polonais, eux, savent ce que c'est que de devoir défendre leur intégrité territoriale. Souvenez-vous, le pays a été quand même rayé 3 fois de la carte au cours de l'histoire, et notamment à cause des appétits allemands et russes, justement. Il lui a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour réapparaître, avant de finalement obtenir sa pleine indépendance il y a seulement 36 ans. Alors forcément, ces relations historiquement compliquées avec Moscou, eh bien, c'est ça qui pousse aujourd'hui la Pologne à se ranger derrière l'Ukraine, car comme les pays baltes voisins, elle estime que le jour où l'Ukraine tombe, eh bien, ça pourrait être elle qui serait la suivante sur la liste du Kremlin. Alors c'est pourquoi d'ailleurs hier, lors d'une manifestation de soutien à l'Ukraine à l'occasion des 3 ans de l'invasion à grande échelle, on a pu entendre des slogans dans les rues de Varsovie tels que « Solidarité par les armes ». Parce qu'ici, eh bien, les Ukrainiens, ils sont vraiment perçus comme le dernier rempart qui se bat pour la survie de ses voisins européens.
Et alors cet engagement polonais, il était aussi militaire, Adrien, parce que le pays ambitionne de mettre sur pied l'armée la plus puissante d'Europe.
Oui, hein, ce sont les termes qui sont mis en avant par le gouvernement et cela passe par une loi spéciale votée quelques semaines seulement après l'invasion en 2022. Elle facilite d'abord le recrutement pour l'armée et puis oblige aussi le pays à consacrer une part de son budget de plus en plus importante à la défense chaque année. En 2025, on dépasse déjà les 4%, là où la France n'y consacre pour l'instant que 2,1%.
Avec au printemps dernier aussi Varsovie qui a mis en place le bouclier Est, et ça c'est 10 milliards de zloty, ça fait 2 milliards d'euros environ. Adrien, comment le pays se positionne-t-il face aux manœuvres de Trump, qui est en train de tourner le dos à l'Europe pour se ranger, donc on l'a bien compris, derrière la Russie ?
Eh bien, le pays est évidemment inquiet, mais il a compris qu'il devait apprendre à faire sans le fameux parapluie américain sur lequel il se reposait jusque-là pour sa sécurité. Puisque jusqu'ici, c'est avec les États-Unis que la Pologne signait ses plus gros contrats d'armement. Et puis, elle comptait sur les bases de l'OTAN situées sur son territoire pour la défendre contre une éventuelle attaque, comme l'a dit Sylvain juste avant. Alors, dans la manifestation d'hier, j'ai pu rencontrer Marcin qui m'a expliqué, en pointant son drapeau polonais vers le ciel, que les déclarations de Trump, il les prenait avec un certain optimisme, en espérant qu'elles pourraient au moins avoir l'avantage de déclencher un électrochoc chez les Européens. Je vous propose de l'écouter.
Mieux vaut regarder la réalité en face que vivre dans l'illusion qu'on est protégé par le parapluie américain, qui peut disparaître à tout moment. Et j'ai espoir que ça nous donne le temps de nous préparer à une éventuelle guerre. Bien sûr, cette perspective me fait aussi peur et me rend triste, car j'ai un fils qui est en âge de se battre et je pourrais perdre ce que j'ai de plus cher.
Alors quand on entend ça, on comprend évidemment que ce n'est pas un hasard. Si la Pologne a choisi pour slogan « Europe sécurité » pour sa présidence du Conseil à l'Union européenne début janvier, elle espère juste, grâce à sa position, pouvoir faire comprendre à ses alliés l'importance des questions de sécurité pour l'avenir de l'Europe.
Adrien, merci beaucoup. Ce sentiment, on l'a aussi en Allemagne, visiblement. En tout cas, on a compris que plus rien ne serait comme avant. Nathalie Versieux, les mots du futur chancelier Merz ont résonné extrêmement fort. On ne peut plus compter sur les Américains. Ça veut dire qu'il faut se sevrer du soutien militaire américain. C'est aussi clair que ça.
Il s'agit ni plus ni moins pour Friedrich Merz, effectivement, de sevrer l'Allemagne et l'Europe du soutien militaire américain et de mettre sur pied une capacité de défense européenne autonome. En fait, le discours tenu par Emmanuel Macron depuis des années. C'est une priorité absolue, a déclaré Friedrich Merz ce dimanche soir. Je ne pensais pas que je dirais un jour une telle chose et de critiquer cette partie des Américains autour de Donald Trump qui sont indifférents au sort de l'Europe. Je ne sais pas si lors du prochain sommet de l'organisation, fin juin, l'OTAN existera encore dans sa forme actuelle.
Ce qui est effectivement une phrase qu'on retiendra, c'est une rupture majeure du discours allemand sur la défense, Nathalie.
Oui, le ton, le choix des mots de Merz, cette attaque contre Washington est inédite en Allemagne, surtout de la part d'un politicien qui a passé en fait une partie de sa vie outre-Atlantique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la sécurité de la République fédérale repose sur l'amitié avec les États-Unis. Pour Merz, les Américains sont devenus un facteur de risque presque au même titre que Vladimir Poutine.
Il faut rappeler, Nathalie, quand même, hein, 35 000 soldats américains toujours stationnés en Allemagne.
Oui, et l'Allemagne abrite aussi quantité des quelques 100 ogives nucléaires installées par les Américains en Europe. L'Allemagne, rappelons-le, n'a pas la bombe nucléaire. Elle n'a pas non plus, ou même n'a plus, de technologie nucléaire. La dernière centrale du pays a fermé l'an passé. Pour les spécialistes de la défense, l'Allemagne est un peu comme une cible molle potentielle pour la Russie. Et il y a donc urgence. Alors déjà, avant les élections, Merz avait appelé la France et la Grande-Bretagne à étendre leur bouclier nucléaire à l'Europe. Selon la presse britannique, la France serait prête à stationner des avions de combat dotés d'armes nucléaires sur le sol allemand. Merz et Macron en auraient parlé dimanche soir avant le départ du président français vers Washington.
Dans ce canevas, Nathalie, qui est en cours de réflexion, quel rôle pour la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande ?
Alors ça, c'est une question compliquée parce que la Bundeswehr n'est pas opérationnelle. L'armée allemande a besoin d'argent, elle a même besoin de beaucoup d'argent. Mais le succès du parti d'extrême droite AfD dimanche aux législatives complique la donne. Pour financer les besoins de l'armée, il faudra emprunter. Or, la Constitution interdit les dérapages budgétaires. Alors il y a bien l'idée de réformer la Constitution, mais ce n'est possible qu'à une majorité des deux tiers. Or, dans la nouvelle Assemblée, l'AfD et les néo-communistes, deux partis qui sont opposés aux dépenses militaires, voire pro-russes, ces deux partis disposeront d'une minorité de blocage. Ils s'opposeront donc à un plan de financement pour l'armée allemande.
Et il y a des pistes de réflexion pour contourner le poids de l'AfD ou pas ?
Oui, alors ça, c'est une discussion tout à fait actuelle. Il y a deux pistes, en fait. Réformer la Constitution, maintenant déjà, avec l'ancienne majorité, avant que le nouveau Bundestag ne soit constitué, mais ça serait un délai très court de un mois. Merz a écarté cette piste dans la journée. Reste par contre une seconde piste, réfléchir à faire adopter maintenant, toujours avec l'ancienne majorité, une nouvelle enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr. Et ça, Friedrich Merz ne l'a pas exclu aujourd'hui.
On a compris en tout cas, Nathalie Versieux, merci beaucoup, la révolution presque copernicienne qui se passe en Allemagne en ce moment. Et puis donc notre dernière escale, on l'a à peine évoquée tout à l'heure, c'est la Chine. La Chine, Sébastien Barriot, on ne l'entend pas beaucoup et pourtant elle est au centre du jeu. Évidemment qu'elle veut rester dans ce jeu diplomatique.
Oui, alors officiellement, la Chine soutient l'initiative américaine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Les Chinois, il faut le dire, n'ont pas vraiment le choix. Depuis le début du conflit, Pékin s'est présenté comme un faiseur de paix. On voit mal aujourd'hui le régime de Xi Jinping s'opposer aux efforts de Donald Trump. Ça, c'est le cadre officiel, mais en coulisses, il est clair que le régime communiste va surveiller de très près ce nouveau processus de paix. Car oui, il y a des inquiétudes à Pékin sur une possible mise à l'écart de la Chine. Et ça, le régime communiste veut l'éviter à tout prix pour des raisons stratégiques et économiques. Les Chinois veulent conserver leur rôle sur l'Ukraine et conserver aussi leurs partenaires russes et l'influence qui va avec. Xi Jinping ne veut pas qu'un accord de paix sur l'Ukraine sous l'égide de Donald Trump vienne remettre en cause tout cela. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la presse officielle ici a bien mis en avant hier le coup de téléphone entre Vladimir Poutine et le président chinois en insistant sur l'amitié entre les deux pays avec toujours les mêmes mots très forts. Le message est passé, mais il faudra certainement le répéter, car les Chinois ont bien entendu Emmanuel Macron évoquer hier à Washington une répartition des rôles en Ukraine entre Américains et Européens. La Chine n'a pas été mentionnée à ce moment-là.
Une question, Sébastien, est-ce que le revirement américain sur l'Ukraine et donc la nouvelle proximité de Washington avec Moscou, est-ce que ça incite Xi Jinping à se rapprocher de l'Union européenne ?
Alors, on peut se dire que Chinois et Européens ont des intérêts communs et tous les deux ne veulent pas se retrouver face à une nouvelle possible alliance entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On pourrait, dans ce cadre-là, imaginer un rapprochement sino-européen, parce que en plus de l'Ukraine, les deux puissances ont aussi les mêmes difficultés avec les nouveaux droits de douane que Donald Trump veut imposer. On a constaté ces dernières semaines de multiples échanges entre Européens et Chinois, mais ce rapprochement n'est peut-être pas aussi évident que cela dans une période où les relations entre la Chine et l'Union européenne ne sont globalement pas très bonnes. Il y a de nombreux différends, notamment sur le plan commercial, et aucun signe ne montre actuellement ici en Chine une véritable volonté de rapprochement stratégique avec les Européens.
J'ai une dernière question rapidement. Si la Chine était écartée d'un accord de paix sur l'Ukraine, comment est-ce que le régime communiste réagirait ?
Eh bien, tout simplement en continuant de faire la promotion du nouvel ordre mondial tel qu'il est prôné depuis plusieurs années déjà par Xi Jinping, c'est-à-dire sans l'hégémonie occidentale, avec des relations plus resserrées avec les pays du sud global. Et là, la Chine pourrait s'engouffrer dans une nouvelle faille ouverte par le même Donald Trump qui a décidé, vous le savez, de réduire voire supprimer les programmes d'aide américaine aux pays les plus pauvres. La Chine ne devrait pas manquer de combler très rapidement ce nouveau vide pour renforcer son influence dans l'hémisphère sud.
Sébastien Berriot à Shanghai, Nathalie Versu à Berlin, Adrien Sarla à Varsovie, Sylvain Tronchet à Moscou. Merci beaucoup à tous les quatre. Cette conversation, on va la poursuivre et ce sera tout à l'heure dans le téléphone sonne. La suite ce soir, ça se passe en Bolivie. C'est le deuxième volet de notre série de reportages dans Un jour dans le monde. Et puis juste après, Christelle Rebière sous les radars. Frédéric Saï, c'est là aussi, c'est le monde à 18h50. Et Caroline Gillet au pays des 27. À tout de suite, je vous laisse avec Tyler de Creator. C'est dans la playlist de France Inter, ça s'appelle Balloon. Yeah, we ain't talking to your dumb ass. You could be a millionaire and still be a bum ass boy. I've been in a dream, I've been on a tip. Okay, look, why I work so hard, my soul profit. Why I can't settle down, I like options. Why I hate small talk, I like topics. How shopping, I'm a pig, I love copping. No BBLs, I like eight cups. Long legs pretty when they wake up. Niggas run they mouth, wanna race up. Everything real here, no lace front. Okay, I girls during December, I slay. And I don't even like girls, bitch, I'm way up too high. Bitch, I'm on my own dick, I don't need your vibe. Fuck them regrets, call them and get all that weight off your chest. Got my brothers here, we the Wayne's. Not my only girl, but you my favorite. I've been flying high, where's the pavement? Fuck for me, can I get an amen? Don't stop, don't stop. Can I get an amen? Don't stop, don't stop. I get this bitch, I like balloon. I send this bitch ass to the moon. I'm at the top, ain't no room. Don't stop! Aye, where the swamp is? Fly his bitch up in the
boom, I need a cockpit. I need some Peter for this pussy, they want the crop free. I'm finna air these D.O. niggas out the closet. I let it in, I let it out. I'm a vibish, but I need that pussy now. If he is gay, then I am gay and we are now. Me and Tyler finna take your bitch down. Oui, oui, merci. Keep it cute when you're in my city. I'm by 2 8-cup titties. I don't need you cause I already fucked me. I don't need a range when I got an air pole. I don't need a plane cause the air pole flow.
Allez, retour en Bolivie dans le reportage d'Un jour dans le monde, deuxième volet d'une série signée Nils Sabin, un an après les très gros incendies. Je vous ai donné hier cette comparaison, la dévastation couvre 2,5 fois la Suisse. Un an après donc, les populations autochtones n'ont parfois tout simplement plus de quoi se nourrir. Toutes leurs cultures ont été dévastées. Nous sommes à l'est du pays, dans le département de Santa Cruz, et le reste, c'est donc Nils Sabin qui raconte.
Dans la petite ville de Saint-Cravière, les personnes qui continuent de souffrir des conséquences des incendies de 2024 sont nombreuses. En effet, plus d'une vingtaine de communautés indigènes Paikoneka ont été affectées par les feux. Certaines ont été ravagées à 80 ou 90% par les flammes. Agustin Parapaena, habitant de la communauté indigène Los Tajibos.
Le feu nous a presque tout pris.
Nous rencontrons Agustin à Saint-Cravière et non pas chez lui à la campagne. En effet, il a dû venir en ville pour trouver un travail et un salaire, car il ne lui était plus possible de vivre dans sa communauté.
C'est très dur pour nous, les habitants des communautés. On souffre de devoir partir. Depuis qu'il y a eu ces feux, chacun survit comme il peut.
Dans l'immense majorité des cas, les habitants des communautés autochtones produisent leur alimentation eux-mêmes et un petit surplus qu'ils vendent sur les marchés. Mais comme de nombreux champs ont été ravagés par les feux, beaucoup de personnes, comme Agustin, ont dû émigrer, au moins temporairement en ville pour trouver un travail salarié. À Saint-Cravière, l'organisation des communautés autochtones Paikoneka, qui regroupe 60 communautés, estime que cela concerne une famille sur cinq. Et même pour les personnes qui ont pu rester dans leur communauté, la situation n'est pas facile. Pour s'en rendre compte, nous rencontrons Maria, 64 ans, dans la communauté de Beyabista, à une quarantaine de minutes en moto de Saint-Cravière.
Nous n'avons de quoi vivre.
Nous n'avons plus de quoi vivre. Nous n'avons pas pu semer de manioc, ni de riz ou de maïs. Nous en semons normalement tous les ans, car c'est ce qui permet à la communauté et à notre famille de vivre.
Pour les habitants des communautés comme Maria, le gouvernement bolivien est aussi en partie responsable de leur situation, du fait de son absence, mais pas que.
Le gouvernement a interdit la culture sur brûlis pendant un temps, ce qui nous a empêchés de relancer nos cultures alors que c'est ce qui nous fait vivre. Et à côté de cela, nous n'avons pas reçu beaucoup d'aide alimentaire.
Si ici les habitants n'ont pas eu à partir en ville, beaucoup d'entre eux travaillent comme journaliers dans les ranchs proches de la communauté. Une situation inédite que déplore Maria.
Ils vont travailler dans ces ranchs, mais 10 euros par jour, ce n'est pas suffisant pour une famille. Nous devons tout rationner et nous n'avons pas assez de nourriture pour nous alimenter correctement.
L'organisation indigène Paikoneka, dont dépend la communauté de Beyabista, a combattu comme elle le pouvait l'avancée des feux grâce aux 50 pompiers volontaires qu'elle a formés, mais elle a été dépassée par l'ampleur des conséquences des feux. Brian Bakatalamas, coordinateur des pompiers volontaire Paikoneka, détaille le plan post-incendie qui a été mis en place.
Il s'agissait d'aider les communautés affectées avec des vivres et un panier alimentaire. Nous l'avons fait, mais nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas la solution.
Après s'être concerté avec les personnes affectées, l'organisation s'est rendue compte qu'il fallait plutôt les aider à relancer leur culture afin qu'elles ne soient pas obligées d'émigrer.
Le nouveau plan consiste donc à aider les victimes des feux à se relancer économiquement, principalement en leur donnant des semis. L'idée est qu'elles aient des semis de maïs, de haricots ou encore de riz de bonne qualité, qui poussent bien.
Ce nouveau plan sera mis en place pour les feux qui arriveront en fin d'année. En attendant, les habitants des communautés Paikoneka vont devoir serrer des dents pendant encore 2 à 3 mois, le temps qu'arrivent les premières récoltes de l'année.
Allez, Nils Sabin pour le reportage, merci beaucoup. Et puis surtout à demain, Nils. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Robière. Et nous sommes donc en Angleterre et tout le monde a reconnu l'un des hits de Kate Bush.
Mais cette fois, la chanteuse participe à un album muet. 1000 artistes, des auteurs-compositeurs venus de toute l'industrie musicale britannique protestent contre la vente des droits d'auteur à l'intelligence artificielle. Parmi eux, outre Kate Bush, The Clash, Damon Albarn du groupe Blur, Annie Lennox, Billy Ocean ou encore le compositeur de musique de film Hans Zimmer, un album avec 12 titres crédités et muet, donc son titre Is This What We Want? Est-ce bien cela que nous voulons? Alors, à quoi peut bien ressembler un album muet, me direz-vous? Eh bien, à ça. Voilà, vous n'entendez quasiment rien, sauf quelques bruits de chaises dans un studio d'enregistrement vide. Mais leur message est clair. Le gouvernement britannique, disent-ils, ne doit pas légaliser le vol de musique au profit des entreprises de l'intelligence artificielle. Ce dernier propose de permettre aux développeurs de l'IA d'entraîner des modèles sur le contenu des artistes qu'on peut déjà trouver en ligne sans leur demander leur autorisation. Cet album muet est en ligne actuellement sur les plateformes de streaming et ses droits seront reversés à une organisation de charité qui s'occupe des musiciens.
From Dallas, Texas, the flash, apparently
official. Et nous sommes aux États-Unis. Nous revenons au 22 novembre 1963.
Date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas et vous vous souvenez forcément de l'image de cet agent du Secret Service qui avait bondi à l'arrière de la limousine juste après les coups de feu. Il s'appelait Clint Hill et il vient de mourir hier à l'âge de 93 ans. À l'époque, il avait 31 ans et sa mission, c'était de protéger la première dame. Alors, on se souvient de ces images où il force Jacqueline Kennedy, qui s'était glissée sur le coffre, à regagner son siège pendant que la limousine repart à toute vitesse. Pour ce geste, il a reçu de multiples récompenses du Secret Service et pourtant, il est resté inconsolable. Si j'avais réagi environ 5 dixièmes de seconde plus vite, peut-être une seconde plus vite, je ne serais pas ici aujourd'hui, déclarait il des sanglots dans la voix 43 ans plus tard dans l'émission de CBS 60 Minutes. Il disait qu'il aurait préféré prendre, lui, la troisième balle.
Nous sommes au Kenya, Christelle.
Et oui, et ce cri, c'est celui d'une antilope très rare, le bongo des montagnes. On la reconnaît à ses zébrures blanches le long du corps. On en comptait 500 dans les années 70, il n'en reste plus que 100. Et les États-Unis viennent de donner au Kenya 17 de leurs spécimens afin d'aider à leur repeuplement. Entre le braconnage, les maladies et la perte de leur habitat traditionnel, leur espèce est menacée d'extinction. Alors les animaux ont été amenés près du mont Kenya dans un sanctuaire où ils seront nourris avant d'être progressivement réintroduits dans leur habitat naturel. D'autres bongos venus des eaux d'Europe doivent les y rejoindre dans les prochains mois.
Eh bien, dites-moi, longue vie aux bongos. Donc, merci Christelle. À demain, vous partez. Ça n'a vraiment rien à voir sur un air de samba. Donc, en passant par le Brésil avec Antonio Carlos Jobim, Sodanco Samba.
Sodanço samba, sodanço samba, vai, 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 vai. Sodanço samba, sodanço samba, vai. Sodanço samba, sodanço samba, vai, 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 vai. Sodanço samba, sodanço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.
Yeah. Danso, Danso Samba, Antonio Carlos Jobim sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, tout pile, c'est Frédéric Seyss.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Avec une question toute simple, Frédéric, les Européens sont-ils opposés à la paix en Ukraine ?
C'est l'histoire qu'aimerait beaucoup raconter la Russie. L'Europe n'aurait d'autre objectif que de prolonger encore et toujours le conflit en Ukraine. Il fallait écouter hier soir le représentant russe à l'ONU, à la table du Conseil de sécurité, devant les caméras du monde entier. Il a dirigé toutes ses flèches contre les Européens, désormais cible unique de Moscou, depuis que les États-Unis ont fait un pas vers la Russie. Le représentant russe a désigné l'Europe, je cite, comme le camp de la guerre, le camp de la guerre, rien que cela, gonflé de la part du pays qui a lancé l'invasion de son voisin il y a 3 ans, gonflé oui, mais pour la première fois, ce type de rhétorique habituelle à Moscou risque de prospérer au-delà des cercles pro-russes.
Parce que Donald Trump ne dit pas autre chose.
Oui, derrière les poignées de main et les accolades avec Emmanuel Macron, le discours du président américain est assez offensif, voire véhément envers les Européens. Ils n'ont rien fait pour la paix en Ukraine, accusait-il il y a encore 4 jours, interview sur Fox News. Donald Trump, pas loin de reprendre l'idée que l'Europe pousse à la poursuite de la guerre. Lui avait promis une paix rapide pendant sa campagne, alors il s'agace de voir Berlin, Londres ou Paris contester, objecter, pinailler, dirait-il, à l'image d'Emmanuel Macron hier, la paix, ça ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. On voit ici la différence d'approche. Côté Trump, processus de paix rapide, accord commercial sur les minerais ukrainiens. Côté européen, processus de paix exigeant, négociations âpres avec la Russie, garantie de sécurité pour empêcher une reprise de la guerre.
Et dans ces différences d'approche, Frédéric, l'Europe risque de se voir attribuer le mauvais rôle.
Oui, celui d'obstacle à la paix, le mauvais rôle, pas seulement dans le narratif russe ou dans le récit trumpiste, mais aussi chez certains pays du Sud. Souvenez-vous les déclarations de Lula sur le conflit. Le président brésilien estime que les torts sont partagés entre l'Ukraine et la Russie. La paix vite, dit-il, dans ce conflit qui lui semble par ailleurs bien lointain, comme pour une bonne partie de la planète. Dans ce contexte, l'exigence européenne sera perçue comme de l'intransigeance et les demandes de garantie comme des arguties. En fait, l'Europe doit se préparer à l'isolement dans le récit mondial qui sera fait ces prochaines semaines.
Alors comment on se sort de ce piège ?
Eh bien, les Européens tentent de contre-attaquer dans 2 directions. 1, vis-à-vis de Donald Trump, en flattant sa fascination pour la force. Pas de capitulation de l'Ukraine, implore Emmanuel Macron. Entre les lignes, ça veut dire pas de faiblesse des Occidentaux. Faiblesse, mot honni par le président américain. Mais cela suffira-t-il ? 2e argument, déployer cette fois en direction des pays du Sud. Une paix bâclée, déséquilibrée, au détriment de l'Ukraine. Eh bien, ce serait récompenser la Russie, expliquent les Européens. Et donc, encourager demain la loi du plus fort partout dans le monde, le non-respect du droit international. Un argument qui peine parfois à convaincre. Certains pays du Sud renvoient l'exemple de la guerre américaine en Irak en 2003 comme un double discours occidental. Bref, la pression n'a pas fini de s'accroître sur les épaules européennes, d'autant que Donald Trump est pressé d'obtenir un résultat et que Vladimir Poutine, lui, prend tout son temps. Entre les deux, l'Europe, qui ne peut compter que sur elle-même, et encore, en son sein, la Hongrie, la Slovaquie, voire l'Italie, sont parfois plus proches de la vision de Trump que de celle de Bruxelles. La question de la solidité du bloc européen sera donc l'enjeu primordial du prochain sommet réuni en urgence dans 10 jours.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. On se retrouve demain. Le mardi, on pousse les portes de l'Europe. Il y a beaucoup à faire en ce moment avec Caroline Gillet.
France Inter. Le 18-20.
Et Caroline, vous nous proposez cette semaine de retrouver Philippe Perchoc. Il est directeur de l'IRSEM Europe, l'Institut de recherche en stratégie militaire. Et c'est le seul think tank, le seul centre de recherche français à Bruxelles.
Oui, les think tanks qui, eux aussi, en ce moment, tentent d'apporter des éclairages, d'aider les décideurs bruxellois en organisant des conférences avec des grands spécialistes. C'est ce qu'on va voir avec Philippe, donc, qui, en plus d'être directeur de l'IRSEM, est chercheur sur la sécurité baltique. Il nous accueille dans son bureau, où il écoute le hit des années 80 qui s'appelle « Urgent ».
Ça c'est le bureau, avec une petite plante verte au milieu.
Ça c'est mon bureau, il y a des petites plantes vertes.
Il y a aussi des pots de crayons de couleur, donc on peut venir faire du coloriage.
Voilà, travailler sa créativité.
Je lui demande comment il s'est intéressé aux pays baltes, lui qui vient de Brest. Il m'explique que sa famille était dans la marine nationale. Comme tout le monde, il allait voir les bateaux dans la rade du port militaire, le 2e plus important de France.
Mais si on aime les bateaux, si on aime la mer, si on aime le grand large, alors peut-être qu'on aime les relations internationales, oui.
Philippe porte une veste de prof, comme il dit, avec des coudières. Il enseigne la politique de l'Europe centrale, au Collège de l'Europe notamment.
Bien sûr, la guerre en Ukraine en 2022, ça a été une sorte de détonation Mais en réalité, depuis l'invasion de la Géorgie en 2008, depuis l'invasion de la Crimée en 2014, ce sentiment d'urgence, il était déjà très présent. Au final, c'est plutôt pour les Français, pour les Allemands ou pour les Espagnols que ça a été un vrai choc. Les politiciens baltes ne cessaient de dire depuis 20 ans que l'attitude de la Russie était une attitude agressive. Les tentatives d'influence de la Russie dans les pays baltes prennent toutes sortes de visages. Ça va être par exemple des menaces énergétiques, ça va être des manipulations de l'information, des tentatives d'intrusion dans le ciel des pays baltes. Donc c'était une confirmation, je pense, pour eux. Maintenant, c'est vrai que les trois pays baltes... D'abord, c'est des assez grands pays. Si vous regardez vraiment la carte, ils ont l'air d'être tout en haut, donc généralement, on ne les regarde pas bien. Mais la Lettonie, c'est deux fois plus grand que la Belgique en taille. Imaginez une double Belgique avec seulement 2 millions d'habitants, dont la moitié habite dans la capitale. Ça veut dire qu'il y a toute une partie du pays dans lequel vous avez une densité extrêmement faible, avec des grandes forêts. Et donc, ça crée aussi un sentiment de précarité quand on vit à côté d'un voisin de 140 millions d'habitants, qui est la première ou la deuxième plus grande puissance nucléaire du monde.
Et l'UE, dans son rapport aux États baltes, justement.
L'année dernière, c'était les 20 ans de l'élargissement de 2004. Ils sont passés de la périphérie au centre de l'intégration européenne. Ils ont adopté l'euro très tôt, alors que vous avez des pays en Europe centrale ou même la Suède qui n'ont toujours pas l'euro. Ils sont rentrés dans Schengen très tôt. Donc ils ont toujours voulu être au cœur de toutes les politiques européennes. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un club, dès qu'il y avait une nouvelle politique, il fallait en être membre parce que la sécurité passe par là. Et y compris d'ailleurs d'aider les grands États membres lors de leurs opérations extérieures pour montrer de la solidarité. Ils ont été parmi les seuls pays européens à accompagner les Français au Sahel. Parce qu'il y a une attente d'un retour de solidarité. Ce qui est nouveau avec la guerre en Ukraine, ou qui est partiellement un fruit de la guerre en Ukraine, c'est de voir des politiciens estoniens, lettons ou lituaniens dans des positions absolument majeures ici à Bruxelles. Que ce soit Kaja Kallas, l'ancienne première ministre estonienne, qui est devenue la haute représentante, c'est un peu l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ou l'ancien premier ministre lituanien Kubilius, qui est devenu le commissaire européen à la défense. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées, même il y a 10 ans.
Mais donc, à quoi servent les chercheuses et chercheurs comme lui à Bruxelles? Pour m'aider à comprendre le travail que font les think tanks, on part chez les voisins.
En étant proche du Parlement européen, on va dans un autre think tank qui s'appelle EPC, European Policy Center.
Une porte tournante, très chic.
Le titre de la conférence, quel rôle diplomatique et militaire de l'UE pour arrêter l'invasion de l'Ukraine par la Russie? La salle est pleine de chercheurs, chercheuses, de fonctionnaires européens. Il y a même des gens debout. Une certaine Olena Prokopenko de la German Marshall Fund prend la parole. Elle commence par dire « On est sans doute plus loin de la paix qu'on ne l'a jamais été. Chaque jour d'indécision ici, c'est des vies perdues au front. » Mais on ne veut surtout pas que l'Ukraine devienne un camp de la mort, comme on a pu voir que l'étaient devenues les zones ukrainiennes libérées de l'occupation russe. C'est pour ça que les Ukrainiens ne vont pas se rendre. Mais si on est seul dans ce combat, personne en Europe ne sera en sécurité. Et puis elle demande une minute de silence, et spontanément, toute la salle se lève.
Je veux dire, c'était assez émouvant, c'est assez rare, ou même ça m'est jamais arrivé, dans une conférence de ce type-là, de voir les gens qui se lèvent. Voilà, il y avait beaucoup d'émotions. On sent que 3 ans du début de la guerre en Ukraine, on est quand même un moment décisif. Ce qui m'a semblé intéressant aussi dans cette conférence, c'était le positionnement des différents intervenants ukrainiens, en remettant les choses en perspective, en expliquant qu'il y a déjà eu effectivement des premiers affrontements en 2014 qui ont conduit à l'occupation de la Crimée, et que la situation a été gelée par les accords de Minsk, mais que ça n'a pas totalement fait cesser les combats. Un mauvais cessez-le-feu ou une paix à tout prix à de mauvaises conditions pourrait amener au même type de situation.
Merci.
Voilà, je me désannonce toute seule.
Bah écoutez, bravo. Vous vous appelez Caroline Gilet, on est toujours content de vous retrouver, et pour la peine, vous reviendrez mardi prochain.
C'est parti.
Merci beaucoup.